Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger, sans nous noyer, dans le problème de la croissance au niveau cellulaire. Et aujourd'hui, le sujet du cours est ce qui contrôle le volume à des instants courts de la cellule. J'aimerais commencer par une perspective un peu large. Je cite ici dans son principal opus philosophie zoologique Lamarck, l'inventaire du terme biologie, un propos qui nous concerne au sujet de la croissance. Pour tout corps inorganique, donc en fait le sujet de cette deuxième partie de son ouvrage, c'est de comparer la matière inerte et la matière animée, de voir les propriétés spécifiques du vivant. Or, comme on ne le sait pas assez, Lamarck en fait était un physicaliste, quelqu'un qui croyait qui réfutait les thèses vitalistes et qui en fait a assis toute sa thèse, notamment sa théorie de la transformation, sur une compréhension physico-chimique du vivant. Et dans ce contexte-là, il dit « Pour tout corps inorganique, l'augmentation de volume et de masse est toujours accidentelle et sans borne, et cette augmentation ne s'exécute pas par juxtaposition, c'est-à-dire que par l'addition de nouvelles parties à la surface extérieure du corps dont il est question, pensez par exemple à un cristal. L'accroissement, au contraire, de tout corps vivant est toujours nécessaire et borné. Et il ne s'exécute que par intussusception, un terme un peu technique, mais qui veut dire, c'est-à-dire par pénétration intérieure ou l'introduction dans l'individu de matières qui, après leur assimilation, doivent y être ajoutées et en faire partie. Or, cet accroissement est un véritable développement de parties du dedans au dehors, ce qui est exclusivement propre au corps vivant. » Donc vous voyez, c'est quelque chose qui concerne à la fois la croissance des individus ou des organes, donc propos du cours de l'an dernier, mais également de la cellule. La croissance dont on parle, c'est la croissance de l'intérieur par un accroissement de masse. Et si on prend l'image classique d'un bâtiment, si on veut le faire croître, on l'ajoute de l'extérieur, mais on ne peut pas l'ajouter de l'intérieur. Donc il y a quelque chose propre à la plasticité du vivant qui s'exprime dans le concept de croissance. Et donc dans cette perspective-là, on peut donc voir que le mode de croissance de la matière vivante est unique dans le monde physico-chimique, le monde naturel, que l'on peut étudier. J'aimerais également, en propos liminaire, revenir sur la thématique abordée la semaine dernière dans l'introduction à ce cours général, qui est finalement la comparaison de l'impact de la multicellularité dans la compréhension de la croissance. On a vu l'an dernier la croissance des organes et des organismes comme régulé à une échelle macroscopique. On avait une description qui était coarse-grained, qui était continue, dans laquelle l'individualité cellulaire était perdue, même si elle n'était pas oubliée. Et on voit maintenant le problème de la croissance de la cellule. Quel lien entre les deux? Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la multicellularité implique des règles propres à la croissance qui ne seraient pas, réductible ou qui ne se pourrait pas assimiler dans un modèle continu de la matière vivante. Et y a-t-il des règles de mesure de la taille à l'échelle de la cellule qui soient aussi importantes pour comprendre la croissance globale d'un organisme? Et donc, maintenant, j'aimerais aussi rappeler l'énoncé du problème de la croissance au niveau cellulaire, à savoir que quand on regarde la taille des cellules, on voit qu'elle varie beaucoup d'un type cellulaire à un autre chez un animal. Mais au sein d'un type cellulaire, prenez par exemple l'épithélium alvéolaire ou bronchique, qui est à la mode aujourd'hui, la variation de la taille des cellules est minimale. D'accord ? Et donc, il doit y avoir des mesures de contrôle de cette variance du volume cellulaire. Et la question est de savoir quels sont les modes de régulation de la croissance cellulaire, de telle sorte que cette variance est minimale. Et c'est le sujet de ce cours aujourd'hui et du cours prochain. Donc là, la taille de la cellule est intimement liée à sa fonction. Comme toujours en biologie, l'aspect fonctionnel rétroagit sur les paramètres physico-chimiques dans une perspective évolutive. Et donc, on pense à tous les types cellulaires, neurones, ovocytes, tout cela. Il y a des tailles cellulaires qui sont contraintes par la fonction. Et dans l'introduction, vous voyez des globules rouges qui ont des tailles extrêmement petites et avec une variance faible qui lient à la fonction de transporter l'hémoglobine et l'oxygène dans les petits capillaires de l'organisme. Le point aussi important à avoir à l'esprit, c'est que la taille de la cellule est contrainte physiquement. J'énonce un certain nombre de contraintes, les contraintes de diffusion des métabolites dans la cellule, qui fait qu'une cellule trop grande va avoir un problème pour diffuser, en fait, ne serait-ce que l'ATP, par exemple, à moins qu'il ne soit produit de façon équilibrée à l'ensemble de la cellule. La diffusion également de molécules de signalisation, qui en fait apporte une contrainte à la communication pour coordonner d'une partie à l'autre de la cellule. On sait par exemple que pour un neurone, pour propager l'activité, la dépolarisation de la membrane, on ne va pas reposer sur le mécanisme de diffusion, mais en fait de couplage spatial par diffusion. Et ces ondes trigger wave en fait permettent une communication à grande portée, mais c'est un contournement d'une contrainte liée à la diffusion dans une cellule de grande taille. Mais il y a également quelque chose comme le rapport entre surface et volume qui apporte une contrainte. Une cellule qui sera plus grosse va avoir une surface qui sera le rapport surface sur volume décroît en 1 sur R alors que la cellule est plus grande. Donc il va y avoir des contraintes par exemple, d'échange avec l'environnement, échange nutritif par exemple. La surface devenant insuffisante par rapport au volume qu'il s'agit de soutenir et de faire croître. Une contrainte également énergétique, point sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, mais la synthèse des ribosomes et la capacité traductionnelle dans une cellule va limiter la croissance. Je ne rentre pas dans les détails, nous reviendrons tout à l'heure, mais c'est une contrainte qui est imposée dans la synthèse des ribosomes, en particulier la transcription des ARN ribosomaux. Voilà, et alors enfin, et ça va être en fait le fil conducteur du cours d'aujourd'hui, c'est que la croissance de la cellule, la taille de la cellule, est gouvernée par un équilibre entre des choses comme la synthèse protéique, qui est l'essentiel de la matière sèche, des flux osmotiques qui sont importants pour réguler le volume, et puis, à des temps plus longs, le cycle cellulaire, on peut voir comme une horloge, quelque chose qui va en fait réguler dans le temps toute une série de processus, les coordonnées, et donc le processus de croissance et de division cellulaire au sein du cycle cellulaire est responsable, sujet du cours prochain, d'une régulation aussi de la croissance et de la taille des cellules. Alors, il est important de voir parmi les différents types cellulaires qui existent dans la biosphère, donc les bactéries d'un côté et les protozoaires, organismes unicellulaires qui a une grande variété de taille. La dernière fois, nous avons exploré la variation de taille des cellules dans des organismes unicellulaires, tous ces organismes ciliés, les amibes, Stentors cereleus, la paramyce, etc., on va de quelques dizaines de microns jusqu'à plusieurs millimètres, 2 millimètres pour les cellules les plus grosses. Mais même chez les bactéries, en fait, ou que l'on croirait volontiers comme des cellules beaucoup plus simples, parce que l'on pense à Escherichia coli et d'autres bactéries qui sont très élémentaires, et dont nous aurons l'occasion de reparler notamment la semaine prochaine, il y a néanmoins, à la périphérie, des bactéries qui ont des formes extrêmement complexes, dans lesquelles d'ailleurs il y a des contournements, il y a des variations sur le thème de la forme sphérique ou cylindrique pour augmenter le rapport surface sur volume, permettant ainsi une augmentation de l'échange avec l'environnement pour soutenir la croissance. On voit ces bactéries qui ont des formes en étoile ou alors lobulées. Ce sont en fait des stratégies de contournement par rapport aux contraintes physiques de diffusion en particulier que j'ai énoncées tout à l'heure. Donc il y a des stratégies d'exploration pour contourner, en tout cas pour explorer des tailles différentes étant donné ces contraintes. Mais voilà, ayons à l'esprit que dans les organismes unicellulaires, il y a une grande variété. Maintenant, la question de la variance limitée de la taille de la cellule est vraiment un problème qui est propre aux métazoaires. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons principalement parler de la régulation de la taille de cellule dans des organismes multicellulaires, bien que les notions physico-chimiques, nous verrons, s'appliquent aussi aux organismes unicellulaires, en particulier les bactéries, les levures et autres champignons. Alors, justement, dans un organisme multicellulaire, si l'on regarde ici quelques exemples de types cellulaires, des cellules pancréatiques, des hépatocytes, kératinocytes, fibroblastes ou adipocytes, on voit par exemple ici que leur diamètre varie significativement, de quelques dizaines de microns à plus que 100 microns. Alors ici, en termes de volume, on a ici des ordres de grandeur pour des cellules qui seront peut-être aux deux extrêmes, du spermatozoïde qui fait 30 microns cubes. 30 microns cubes, c'est en gros 30 fois le volume d'une bactérie, vu qu'une bactérie comme Escherichia coli, c'est 1 micron cube. D'accord. Et à l'autre extrême, l'ovocyte, qui fait 4 millions de microns cubes, donc une cellule beaucoup plus grosse, et aux échelles intermédiaires, quelques centaines à quelques milliers de microns cubes. Voilà, une cellule est là, la cellule de culture classique, ça va faire quelques 2 à 3 000 microns cubes. Donc, voilà, illustre en fait la variété de volume cellulaire, mais dans un type cellulaire, il y a une variance très faible. Alors justement, à propos de variance du volume cellulaire, ici, voici un histogramme de distribution des tailles des cellules, de volume de cellules dans deux organismes différents. D'abord, chez la levure Saccharomyces cerevisiae, on voit ici la distribution des volumes qui est centrée autour de quelques dizaines de microns. Et typiquement, la variation de taille de ces cellules est ce à quoi on s'attend, étant donné le fait que le volume va de toute façon doubler au cours du cycle cellulaire. Donc il y a en gros un rapport de 1 à 2 à quelques cellules qui sont néanmoins avec des tailles plus grosses que prévues par cette simple processus de division cellulaire et doublement du volume. Mais dans les cellules en culture, comme ces cellules lymphoblastiques, on voit également un histogramme légèrement asymétrique, mais dans lequel l'essentiel de la distribution en fait, peut s'expliquer par le fait qu'il y a un doublement du volume au cours du cycle cellulaire. Alors, il se trouve que ça, c'est dans les conditions physiologiques, mais il y a des processus pathologiques qui, d'ailleurs, ont comme caractéristique une augmentation de la variance du volume cellulaire. Je cite deux exemples. Le premier est important, ce sont en fait les globules rouges, qui, comme vous le savez, sont des cellules qui n'ont pas de noyau, qui sont produites en grande quantité, qui ont comme contrainte d'avoir un volume suffisant pour passer par les capillaires sanguins, qui sont en fait invariants dans leur taille chez tous les hommes, et même chez la plupart des mammifères, et qui ont donc il y a un paramètre qui est utilisé, leur moyenne c'est 90 femtolitres, un femtolitre c'est un micron cube, un rayon donc, de 6 à 8 microns, et donc il y a un paramètre médical, hein, la distribution de la taille des cellules, que l'on voit ici dans les conditions physiologiques normales et qui est étendue dans les conditions pathologiques. Ces conditions sont en fait des anémies, donc une déficience en fer qui cause ce qu'on appelle une azinocytose et qui augmente la variance du volume des cellules, et qui est donc un paramètre important qui peut même être utilisé comme un outil diagnostique. Voilà. Et donc, il y a toute une série de paramètres hein, environnementaux, disons, propres à l'organisme, comme l'âge, hein, les processus inflammatoires, oxydatifs, etc., et d'autres maladies, en fait, qui contribuent à cette perte de contrôle du volume très contraint des cellules des globules rouges. Un autre exemple sont en fait les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses ont, comme on sait, des lésions génétiques multiples et variées, dépendent aussi de l'environnement. On observe dans un certain nombre de cancers, voilà ici un exemple d'une tumeur mammaire dans laquelle on voit, c'est un processus artificiel de transformation de cellules épithéliales, mais on voit en fait que ces cellules transformées ont des volumes très variables, qui sont peut-être liés à des aneuploïdies chromosomiques ou autres, mais qui illustrent néanmoins le fait que, bah oui, une cellule cancéreuse, le cancer étant vraiment une maladie de la croissance, une perte de contrôle de la croissance, et pas simplement de la division cellulaire, on voit conjointement avec une évolution, disons, du contrôle général d'un tissu ou d'un ensemble de cellules génétiquement transformées, on voit aussi une augmentation de la variance du volume cellulaire, chose sur laquelle je crois qu'est connue des médecins, mais qui est en fait peu étudiée par les biologistes et les physiciens, et donc qui en fait motive en soi déjà l'étude du contrôle de la variance du volume cellulaire. Donc voilà un peu pour mettre en scène la question à la fois fonctionnelle du volume cellulaire, de contrôle de sa variance, hein, et pas simplement de sa moyenne, vraiment de sa variance, avec le sous-titre de ce titre aujourd'hui, c'est comment contrôle-t-on la variance du volume d'une population de cellules dans un environnement donné. Alors, pour parler justement de ces problèmes de régulation de la variance, il y a, en lien avec la moyenne, disons que la moyenne, typiquement, on va retenir, est déterminée par des facteurs intrinsèques d'origine génétique, qui vont être bien sûr propres à l'organisme, mais également au type de cellules différenciées. Une cellule adipocyte va avoir des caractéristiques différenciées liées à son expression génétique qui vont en fait réguler la moyenne de sa taille à une certaine valeur qui va être différente d'un kératocyte. D'accord ? Il y a également des facteurs environnementaux, nutritifs en particulier, qui vont soutenir la croissance, au contraire la réduire. On a vu cela l'an dernier dans le contexte de la régulation des organes, de la taille des organes, mais qui est vrai également au niveau de la cellule. Et puis, éléments environnementaux, il y a également les paramètres, les cytokines, c'est-à-dire les signalisations induites par l'environnement de l'organisme qui va soutenir, au contraire réduire la croissance et qui aura un impact sur le volume, la valeur moyenne du volume cellulaire. Et puis, il y a maintenant des choses qui sont propres à l'homéostasie du volume à des échelles de temps très courtes, au sens qu'il peut se réguler, se réajuster à des échelles de temps très courtes, et qui, impliquent une réponse aux variations imputables aux variations de l'environnement, on va en parler aujourd'hui, ou internes à l'organisme. Il y a des aspects stochastiques qui doivent être lissés pour que la cellule n'ait pas une réponse fluctuante, trop importante, à des paramètres stochastiques internes à la cellule. Voilà. Donc, d'où vient l'homéostasie du volume cellulaire voilà. Ça, c'est le sujet du cours d'aujourd'hui en particulier. Mais il y a une régulation de la variance à des temps plus longs, qui est en fait le fait qu'au cours du cycle cellulaire, les cellules vont doubler leur volume, mais à tout moment, au cours de ce processus de doublement du volume, la variance est quand même limitée. Et donc on doit avoir une évolution à des temps plus longs, à plusieurs heures, de paramètres physico-chimiques qui se manifestent à des temps très courts et qui sont le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine sont intimement liés. Aujourd'hui, j'expose les paramètres élémentaires qui seront nécessaires pour comprendre la régulation de la croissance au cours du cycle cellulaire. Parce que si vous voulez, le problème peut s'énoncer de la façon suivante. La cellule met en place tout un arsenal de processus régulatifs pour contrôler l'homéostasie de son volume. Néanmoins, elle doit doubler son volume pour se diviser. Et donc, comment maintient-elle cette homéostasie dans un contexte où elle doit néanmoins doubler son volume? Voilà, en fait, je pense, de façon synthétique, le problème. Alors, j'aimerais aussi, en nous plongeant au niveau cellulaire, se remettre néanmoins dans le contexte de la croissance de l'organisme. Parce que pour ceux qui ont, et je vous renvoie donc au deuxième cours de l'an dernier, dans lequel nous avons vu un certain nombre de propriétés de régulation de la croissance de l'organisme, dans lesquelles la cellule n'était pas oubliée. Et j'aimerais rappeler en fait ce rôle de la cellule. Donc tout d'abord, il y a un facteur universel, vrai chez les bactéries, les levures, les plantes et les animaux, qui est qu'en fait la croissance cellulaire est dominante sur le cycle cellulaire. Par quoi j'entends que si l'on bloque la division cellulaire, la cellule continue de croître dans une certaine limite. De telle sorte que, par exemple, si l'on bloque la division cellulaire, les cellules vont croître, le volume du tissu va donc continuer à croître jusqu'à une valeur cible qui est la taille de l'organe. J'ai en bas résumé les éléments importants qui concernent les sources énergétiques qui soutiennent la croissance de l'organisme. Donc, correspond en fait aux éléments nutritifs, évidemment, et à l'autre extrémité, l'échelle de la cellule, sujet qui nous concerne, la demande énergétique pour la croissance de la cellule. Et en fait, la source énergétique a pour fonction de soutenir à l'autre extrémité la croissance de la cellule. Au milieu, nous avons toute une série de contraintes sur lesquelles je ne vais pas revenir, qui en fait concernent la distribution énergétique dans l'ensemble de l'organisme, avec cette loi sur laquelle nous reviendrons très brièvement. Et puis, en fait, tous les mécanismes de contrôle au niveau de l'organe et au niveau systémique qui assurent que les proportions d'organes sont maintenues. Alors, justement, pour replacer le métabolisme, la puissance métabolique de la cellule dans le contexte de la croissance de l'organisme, j'aimerais ici revenir brièvement sur cette loi en fait, de croissance énoncée par Brown et Enquist et West, dans lesquelles on voit ici, donc, finalement, la question est comment est-ce que l'on explique la croissance d'un organisme jusqu'à une taille limite. Le métabolisme, la puissance métabolique, c'est-à-dire la quantité d'énergie dépensée par unité de temps, en watts, peut se dériver d'un processus cellulaire, dans lequel on a alors la masse de l'organisme et évidemment la masse de la cellule moyenne multipliée par le nombre de cellules. Et l'on voit ici la contribution la puissance qui est allouée pour maintenir en vie, en activité, chacune des cellules, donc le nombre de cellules multiplié par le métabolisme basal de la cellule, la puissance métabolique cellulaire, B indice C. Et on a ici la demande énergétique allouée à la croissance, c'est-à-dire c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour produire une nouvelle cellule, EC, et puis la dérivée du nombre de cellules.
Oui. La prolifération, pas la croissance.
Prolifération cellulaire, mais si tu veux, la prolifération cellulaire couplée à la besoin énergétique lié à sa croissance, quand je dis prolifération cellulaire, c'est bien produire une nouvelle cellule. Donc DNC sur DT. Voilà. Donc on a ces deux paramètres, un besoin énergétique pour croître et un besoin énergétique pour maintenir en vie. D'accord ? Alors, on peut dériver de ça une loi de croissance dans laquelle on retrouve ces paramètres cellulaires, notamment la puissance métabolique cellulaire, la consommation énergétique pour produire une nouvelle cellule, et puis la masse de la cellule. Donc des paramètres qui nous concernent aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, la loi de croissance de l'organisme peut se dériver en fait, de paramètres cellulaires d'un point de vue énergétique. Et puis on ajoute à ça cette loi d'abord phénoménologique, la loi de Kleiber, qui couple en fait, la puissance métabolique de l'organisme à sa masse. Et peu importe d'ailleurs si l'on croit au modèle apporté par Brown, Enquist et West sur l'origine physique de cette loi de puissance. Si l'on conjugue ces deux équations, on arrive en fait à une loi de croissance dans laquelle on voit apparaître la demande énergétique, la demande énergétique et l'apport énergétique. Et ce qui est important, c'est donc l'écart entre les deux coefficients où la masse de l'organisme apparaît. Et en fait, ce mismatch entre les deux est à l'origine d'une masse asymptotique Et là, ce que je voudrais souligner, c'est que les paramètres A et B, qui sont sans dimension, sont des paramètres qui contiennent en eux-mêmes des paramètres, des constantes, qui sont des constantes essentiellement cellulaires. On a la masse de la cellule, on a l'énergie pour produire une nouvelle cellule, et on a le métabolisme, la puissance métabolique à l'échelle cellulaire. Et donc, par exemple, ne serait-ce que la masse asymptotique qui dérive de cela, dm sur dt égale 0, la masse asymptotique elle-même, en fait, est la fonction du métabolisme basal de la cellule, de la masse de la cellule, ainsi que d'une propriété de l'organisme en lui-même. Donc, si je voulais revenir sur cette loi de croissance, c'est pour signifier que on peut dériver la masse de l'organisme de quelque chose qui, en fait, décrit le besoin énergétique pour croître, pour doubler le volume d'une cellule, ainsi que de sa propre masse et de son métabolisme, de sa puissance métabolique basale, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut produire par unité de temps pour maintenir en vie la cellule. Donc finalement, on voit bien que la croissance de l'organisme dérive directement de propriétés énergétiques de la cellule. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, entre autres, que j'ai décidé de m'intéresser cette année aux aspects énergétiques et de régulation de la croissance de la cellule, parce qu'ils sont en fait implicitement importants pour expliquer la croissance de l'organisme. Alors, mettons cela en chiffres. Si on est un adulte, en moyenne, on dépense 1000 kilocalories par jour, ou 80 mol d'ATP par homme et par jour. À l'échelle de la cellule, cela revient en gros à une puissance métabolique de l'ordre de 3 10 puissance moins 12 watts, c'est à 3 10 puissance moins 12 watts, et en considérant qu'une hydrolyse d'un ATP, c'est de l'ordre de 20 kT, on a en ordre de grandeur 3 10 puissance 7 molécules d'ATP par cellule et par seconde qui sont consommées. Alors on peut voir dans ce diagramme en bas à droite, encore une fois, le rapport entre la puissance métabolique cellulaire et puis la masse de l'organisme dans lequel ces cellules sont situées. Et en raison de la loi de Kleiber, on a bien une loi de puissance avec un coefficient moins 1 quart, d'accord ? Et l'on peut remonter à l'origine à ce que serait en fait la puissance métabolique cellulaire dans un organisme qui serait finalement unicellulaire. Encore, en revenant à l'extrême. Ici, on a des organismes plus grands et en réduisant la taille de l'organisme, on pourrait faire l'hypothèse quelle serait la puissance métabolique dans l'organisme le plus petit possible, qui serait donc l'échelle de la cellule. Et on arrive à un ordre de grandeur de la puissance métabolique cellulaire qui est de l'ordre de 10 puissance moins 11 watts, qui est effectivement ce que l'on mesure lorsqu'on a des cellules en culture, c'est-à-dire qui sont extraites de leur environnement, dans lesquelles il n'y a plus de contraintes d'apport énergétique et dans lesquelles, finalement, on a, quelle que soit l'origine de l'organisme dans lequel ces cellules ont été prises, les mettre en culture des cellules, les affranchit des contraintes de distribution de l'énergie qui sont inhérentes à la loi de Kleiber et dans lesquelles donc, cette loi de puissance n'est plus opérationnelle. Et on retrouve donc, à l'intersection effectivement cet ordre de grandeur de 10 puissance moins 11 watts, ce qui aussi ce qui peut se dériver d'un rapport entre l'énergie, la puissance métabolique d'un organisme, le nombre de cellules dans l'organisme. Bref, il y a différentes façons d'arriver au même ordre de grandeur. Il y en a au moins trois. Alors, parlant du métabolisme cellulaire, on peut distinguer, en fait, dans cette étude, les auteurs distinguent donc l'énergie nécessaire totale au cours d'un cycle cellulaire en distinguant l'énergie pour produire une nouvelle cellule, CG, qui correspondait à EC tout à l'heure dans la description de West et Brown et Enquist. Et ici, alors pour des raisons, ils ont distingué, ils appellent CM, ce qui est en fait une puissance en droit, vu qu'en fait c'est une énergie par unité de temps, et T est le temps de division cellulaire. Et ici, on a ici des valeurs quantitatives du rapport entre le nombre, entre l'énergie consommée par cellule, d'accord ? Donc c'est une énergie qui est en fait exprimée en valeur de molécules d'ATP par cellule en fonction du volume cellulaire, le tout en échelle logarithmique. Et ce qu'on peut voir donc, dans différents types d'organismes, on peut voir qu'il y a donc une loi de puissance avec un coefficient qui est en gros 1. Donc en fait, il y a un rapport linéaire entre la puissance métabolique et le volume cellulaire. Pour ce qui concerne l'énergie nécessaire à la croissance de la cellule, c'est indigé. Maintenant, pour la maintenance de la cellule, on a aussi quelque chose qui s'apparente à une croissance linéaire, c'est-à-dire un coefficient de proportionnalité qui n'est pas statistiquement différent de 1. Et donc, voilà, le point important est que la croissance énergétique et la puissance métabolique de la cellule est une fonction linéaire de son volume. Mais le point important est que la contribution de l'énergie nécessaire à la croissance domine largement, en fait, dans toute une série de types cellulaires, la consommation énergétique de la cellule. Et pour se rendre compte, il faut regarder quelle serait la durée du cycle cellulaire pour que le besoin en maintenance devienne dominant par rapport à la croissance. Parce que finalement, effectivement, le besoin de l'énergie allouée à la maintenance est directement proportionnel à la durée du cycle de la cellule. Et donc, on a ici une ligne difficilement visible, une ligne hypothétique qui correspond au temps de division cellulaire pour différents volumes cellulaires, dans lequel on aurait une contribution à la croissance de la cellule qui serait la moitié du budget énergétique total, ou symétriquement, dans lequel le besoin de maintenance est la moitié du budget énergétique total. Et on voit que pour tous ces types cellulaires, on est en dessous de cette ligne hypothétique. Avec une échelle logarithmique, on est très significativement en dessous. Ce qui veut donc dire que dans tous ces types cellulaires, le besoin énergétique pour la maintenance est en fait négligeable par rapport aux besoins nécessaires à la croissance de la cellule. Donc retenons ici que le besoin énergétique pour la croissance de la cellule est dominant par rapport aux besoins pour la maintenance de la cellule. Alors maintenant, sur cette diapositive, on voit exposer finalement le plan des choses que nous allons voir aujourd'hui en termes de régulation du volume de la cellule, en voyant tout d'abord les effets à court terme des flux osmotiques et de la mécanique cellulaire. Et deuxièmement, nous verrons l'impact de la croissance protéique. Et nous finirons, sans nous étendre beaucoup parce qu'on en connaît peu de choses, le couplage nécessaire entre ces deux notions, c'est-à-dire à la fois le volume cellulaire en termes de flux osmotique et de la synthèse protéique. Et on a ici exposé le contexte de ces trois notions pour une cellule eucaryote et une cellule bactérienne. Nous reviendrons. Ce qui est commun, c'est effectivement l'existence de flux osmotiques, de flux d'eau à travers la membrane et la paroi, et par ailleurs, le besoin de synthèse protéique. Mais ce qui va être distinct, ça va être en fait les éléments de la mécanique du cortex dans une cellule animale, gouvernée par le cytosquelette d'actine et de myosine, et chez les plantes, bactéries, levures et autres champignons, en fait la paroi, qui a des propriétés mécaniques particulières, va avoir des différences significatives dans le couplage entre flux osmotique et mécanique cellulaire dans ces différents types de cellules. Alors, je commence donc par expliquer finalement cette notion de flux osmotique qui à la fois apprise très tôt quand on est à l'école, mais qui en fait est assez subtile, en tout cas si l'on veut comprendre son origine physique. Une cellule comprend 70% d'eau, en gros, et 30% de masse sèche, cette masse sèche comprenant elle-même essentiellement les protéines, mais également les acides nucléiques, lipides, tous les métabolites et les ions. Donc le volume cellulaire en fait est principalement contribué par l'eau dans la cellule. Alors on considère que donc l'eau en fait traverse la membrane et ce passage de l'eau à travers la membrane est à la fois spontané mais également induit ou facilité par des canaux qu'on appelle les aquaporines. Donc vous voyez ici la structure qui sont des canaux assez remarquables qui laissent passer l'eau à travers donc une structure qui est intrinsèquement hydrophobe. Le flux d'eau en fait sont gouvernés par deux principes actifs, hein. L'un qui est en fait la pression hydrostatique dans la cellule et la différence de pression entre la cellule et la pression de l'environnement, du milieu, et également la pression osmotique notée par un grand pi. Et en fait, le flux d'eau à travers cette membrane semi-perméable est gouverné par en fait cet élément actif qui est en fait la contribution à la fois de la différence de pression et la différence de pression osmotique entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et le coefficient de proportionnalité est ce qu'on appelle le coefficient de filtration. Alors, on peut en fait dériver une expression de cette pression osmotique dans des cas idéaux qui fonctionnent très bien dans toute une gamme de régimes. On en verra un peu les limites à la fin de ce cours, qui est en fait ce qu'on appelle la loi de Van't Hoff, la relation de Van't Hoff, en fait, qui est en fait une loi des gaz parfaits appliquée à la pression osmotique, dans laquelle on néglige les interactions entre les molécules, et on considère en fait que ces molécules n'interagissent pas entre elles, ce qui est évidemment faux. Et donc dans ces conditions donc diluées du milieu cellulaire, la pression osmotique est en fait KBT température fois la concentration, donc dans le milieu intracellulaire, le nombre de molécules, on verra lesquelles, divisé par le volume de la cellule. Alors justement, les molécules qui sont importantes, qui contribuent à la pression osmotique, ce qu'on appelle les osmolites, sont principalement les ions pour des raisons liées en fait à leur concentration. Parce qu'on a ici, dans différents types cellulaires, la concentration de potassium, sodium et d'autres ions en concentration moindre, sauf les ions chlore. Et l'on voit en fait que typiquement, chez une bactérie, on a entre 30 et 300 millimolaires de potassium, chez une cellule de mammifère, 100 millimolaires, voilà la concentration moyenne. Et pour le potassium, un peu moindre. Voilà. Et si vous voulez, en ordre de grandeur, la concentration d'une protéine, c'est ou 200 à 300 grammes par litre dans une cellule de mammifère. Et en fait, ça correspond globalement à 10 millimolaires en concentration. C'est une moyenne, mais pour cela, j'ai considéré 200 à 300 acides aminés par protéine en moyenne, 100 daltons par acide aminé en moyenne, et donc on arrive ainsi à un ordre de 2 à 3, 10 puissance 4 daltons par protéine. Et donc ça permet donc la conversion entre 200 à 300 grammes par litre et en moyenne 10 millimolaires. Donc retenons qu'il y a en gros un facteur 10, en fait 20 à 30, entre la concentration de protéines d'une cellule et la concentration d'ions. Et c'est pour cette raison-là en fait, que, la pression osmotique, que les osmolites, les ions, en fait, ont une contribution majeure à la pression osmotique par rapport aux protéines, bien qu'elles existent, et qu'elles soient beaucoup plus grosses. D'accord ? Alors cela aura une incidence pour penser le lien entre volume, les flux d'eau par pression osmotique et la densité de protéines qui vient de la synthèse protéique. Donc, nous reviendrons sur ce point-là à la fin du cours. Alors toujours pour mieux comprendre ces flux osmotiques, on peut partir d'un dispositif expérimental et en fait c'est sur cette base-là en fait qu'on considère la membrane de la cellule. En fait, une membrane semi-perméable, c'est-à-dire perméable à l'eau, aux molécules d'eau, mais pas aux ions. Une différence de concentration d'osmolite entre un compartiment A et un compartiment B va induire un flux d'eau à travers la membrane semi-perméable. Et en fait, la pression osmotique en fait, peut être mesurée comme la pression qu'il faut appliquer au fluide pour empêcher le flux d'eau. Donc en fait, si on a une différence de concentration, on a une différence de pression osmotique, on s'attend à un flux d'eau, et pour l'annuler, il faut donc appliquer une pression aux frontières, une pression hydrostatique qui va annuler le flux. Et c'est ce qu'on mesure, et c'est ce qui se passe effectivement dans une cellule. Pourquoi ? Parce qu'elle a une membrane qui a sa propre limite, sa surface limitée, et qui va donc va appliquer l'équivalent de ce que fait le piston, c'est-à-dire qu'il va annuler le flux d'eau dans les conditions en fait, stationnaires. Et donc cette pression osmotique, qui est d'un type un peu particulier, se mesure néanmoins en pascal, et en fait ce processus qui permet de la mettre en évidence, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse, qui en fait est le processus inverse de celui par lequel les deux volumes deviennent différents pour annuler la différence de pression osmotique dans l'état final. Alors, je vous renvoie, pour ceux qui veulent approfondir la compréhension de la pression osmotique, je me suis beaucoup inspiré du livre de Phil Nelson, qui, dans son chapitre 7, si je me souviens bien, explique de façon très en détail en fait, l'origine de la pression osmotique, même si j'en dis très peu aujourd'hui. Le peu que j'en dis en fait, est dérivé de choses beaucoup plus développées avec les calculs dans ce livre, que je trouvais remarquablement bien fait. Alors, la pression osmotique est quelque chose d'assez subtil, et en fait, pour vraiment le comprendre, et là, c'est vraiment ce que d'ailleurs explique très bien, je trouve, Phil Nelson dans son livre, il faut le voir à l'échelle microscopique comme une force d'origine anthropique, et qui en fait rectifie en fait au niveau de la membrane semi-perméable rectifie en fait le mouvement brownien des molécules d'eau, et en fait le gain anthropique lié à la rectification du mouvement brownien est compensé par un coût anthropique qui est effectivement l'augmentation du volume de la cellule ou en tout cas du compartiment qu'on étudie. Donc finalement c'est vraiment ce qui se passe à l'interface à cette membrane semi-perméable en termes de rectification du mouvement brownien qui en fait permet de comprendre l'origine anthropique de du flux osmotique. Donc, on peut faire maintenant un petit calcul. Alors, le calcul se repose sur quelque chose de non physiologique, mais qui, en fait, est un point de départ pour voir l'impact de la pression osmotique. Finalement, on peut considérer une cellule dans l'eau pure, c'est-à-dire sans osmolite, dans laquelle on a 10 millimolaires d'une concentration de protéines. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les protéines contribuent peu à la pression osmotique, et c'est vrai, mais néanmoins, faisons un calcul sur cette base-là. Avec 10 millimolaires de protéines, ce qui est en fait l'état réel d'une cellule, on a une pression osmotique de l'ordre de 10 puissance 5 pascal. D'accord ? Alors, dans ce contexte-là, on va avoir un flux osmotique qui va augmenter le volume. Et alors que la cellule va augmenter son volume, sa surface va devoir s'étendre jusqu'à un point d'équilibre où en fait, le coût énergétique d'extension de la membrane qui s'exprime en gamma ds, DS, augmentation de la surface, gamma, la tension de surface, est en fait compensée par l'énergie libre apportée par l'expansion du volume au cours de sa détente, donc l'augmentation du volume, et qui s'exprime en PdV. Et donc ceci permet de calculer la tension de surface correspondante, qui est d'un ordre de grandeur de 1 newton par mètre. Alors, ce chiffre est important parce qu'on sait par ailleurs que la tension de surface qui correspond au point de rupture de la membrane, c'est de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 2 newton par mètre, beaucoup moins. Donc, dans ce cas un peu absurde, où l'on oublie en fait les ions, on voit que la simple densité de protéines dans une cellule en fait, suffirait en fait à faire à induire la lyse de la cellule. Donc, par voie de conséquence, si l'on considère maintenant les ions, qui sont dans une concentration 20 à 30 fois plus importante, a fortiori, on verrait une explosion de la cellule. Alors, on dirait, mais oui, l'environnement extracellulaire n'est pas de l'eau pure, et c'est vrai, mais on voit bien que dans de l'eau pure, une cellule, une globule rouge, en fait, explose, et c'est effectivement ce que l'on observe. Alors, effectivement, rectification importante, l'environnement n'est pas de l'eau pure, il contient des ions à concentration que vous voyez ici, de l'ordre de une centaine millimolaire de différents ions. Et donc le point qui est important, c'est qu'il y a une régulation active de la différence de pression osmotique entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, qui la réduit au minimum dans les cellules animales pour empêcher la lyse cellulaire. Vous voyez que la différence d'osmolarité en fait est faible, hein. Il y a, si l'on prend l'ensemble des ions, on a une osmolarité qui est une différence de pression osmotique qui est réelle, mais qui est très faible. Et si elle n'était pas contrôlée, en fait, la cellule se liserait. Voilà, le point important à avoir à l'esprit. Alors, dans ce contexte-là, et on reviendra sur les mécanismes de régulation de cette différence d'osmolarité, on peut manifester par une perturbation de l'environnement, en fait, le flux osmotique et l'impact sur le volume de la cellule. En particulier, donc, si l'on modifie l'osmolarité, vous voyez, on passe de 30 milliosmoles par litre à 215 milliosmoles par litre, qui correspond à une variation de concentration de NaCl de 140 millimolaires à 90 millimolaires. Ici, on a le volume de la cellule en unité relative, et vous voyez qu'il augmente en gros de un peu plus que 30% sur des temps très courts. Et vous voyez ici une image en microscopie électronique qui montre, en fait, lorsque l'on divise par deux l'osmolarité, l'augmentation du volume de la cellule et puis ces changements de morphologie sur lesquels on revient à la diapositive suivante. Donc en fait, la variation même subtile de la variation de la pression osmotique dans un milieu hypotonique induit une augmentation rapide du volume cellulaire et qui est directement liée en fait à tout ce que l'on vient de voir. Alors dans ce contexte-là, effectivement, l'aspect de la cellule change, les microvillosités ou en tout cas les protrusions à la surface de la cellule sont lissées, on a une membrane beaucoup plus lisse et cela vient en fait du fait que la membrane en fait contient un réservoir extrêmement important. On l'avait vu dans le cours sur la tension de membrane en 2018, donc il y a 3 ans, et dans lequel on voit en particulier, dans cette étude, un choc hypotonique modifie la densité de ce qu'on appelle des cavéolines, qui sont des structures stabilisées par des protéines, qu'on appelle les cavéolines, d'une petite invagination de la membrane, qui en fait contribue à un réservoir très important, et qui, dans les conditions de stress osmotique, est mise à disposition pour augmenter rapidement la surface, sans qu'elle se lise. Voilà. Donc, on a donc tout un réservoir de membrane qui est prêt à être redéployé dans un contexte de variation, certes infime, hein, mais néanmoins important, 30% du volume, en raison d'un choc osmotique. Alors, pensez à un certain nombre de cellules qui peuvent subir, en raison dans l'environnement, des variations de concentration de ioniques. Qui sont notamment par exemple à l'épithélium intestinal où en fait en fonction de l'alimentation on a des variations assez importantes des concentrations ioniques. Donc les cellules ont besoin de pouvoir répondre transitoirement à cet environnement sans se liser. Alors maintenant j'aimerais dans ce contexte-là voir le cas très distinct en fait des plantes, bactéries, levures, champignons. Donc ce sont quand même des choses qui sont très importantes dans la biosphère et de l'autre les cellules animales. Alors on a pu faire des mesures et montrer que la pression de turgescence ou pression hydrostatique dans des cellules de plantes ou de champignons peut atteindre des ordres de grandeur extrêmement importants de quelques dizaines de mégapascales. Et donc, la raison en est, alors que chez les cellules animales, on est de l'ordre de 50 à 150 pascales. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. La raison en est qu'une cellule animale est simplement stabilisée. Alors, elle est stabilisée par une différence de pression osmotique très faible, et le cortex d'actomyosine maintient cellules dans un état, une forme particulière. Nous y reviendrons. Mais la plante, en fait, a une différence de pression osmotique extrêmement importante. À l'origine, et comme elle a une paroi extrêmement épaisse et résistante, représentée en bleu, elle a une pression à l'état stationnaire, elle a une pression de turgescence extrêmement importante, mesurée, qui est de l'ordre de quelques de l'ordre du mégapascal en moyenne et qui pouvant atteindre quelques dizaines de mégapascal dans les cas extrêmes. Voilà. Donc, dans les cas des plantes, en fait, la différence de pression osmotique vient principalement du fait que dans la paroi, qu'on appelle l'apoplasme, il y a en fait une espèce de déplosion d'osmolite. C'est comme si on avait quasiment de l'eau pure, qui fait en fait que la différence de pression osmotique de la paroi par rapport à l'environnement immédiatement opposé dans la membrane est beaucoup plus faible. Alors, voilà en tout cas ce que j'ai vu dans la littérature, il y a une propriété de la paroi. Dans une plante, une plante, toutes ces cellules sont couplées les unes aux autres. Donc si vous voyez, le milieu extracellulaire pour la plante, c'est en gros de la paroi. D'accord ? Il y a une différence entre ça et puis le milieu complètement extra-organisme, qui est par exemple, je sais pas, une algue plantée dans l'eau ou une plante dans le sol, ses racines en contact avec l'eau. Mais dans le contexte de l'organisme lui-même, la paroi, c'est le milieu extracellulaire de la plante et donc la concentration d'osmolite dans la paroi, d'accord, qui est très très faible, est principalement la cause de cette différence de pression osmotique, plutôt qu'une augmentation importante de l'osmolarité dans la cellule. En fait, dans ce que j'ai vu dans la littérature, ce n'est pas vraiment l'augmentation de concentration ionique, par exemple, qui est en jeu, mais une baisse importante dans le milieu extracellulaire. Alors, en raison de ces différences de pression osmotique, on peut faire une expérience très simple, c'est de lyser la paroi. Et bien, en fait, la cellule explose quasiment instantanément chez une plante, alors que chez un animal, en raison des processus actifs qui maintiennent une différence de pression osmotique faible entre l'intra et l'extracellulaire, la dépolymérisation du cortex d'actomyosine ne lyse pas la cellule. Elle induit une augmentation du volume de inférieur à 10%, mais la cellule est toujours en état. Elle est en état parce que la différence de pression osmotique est faible et elle est maintenue faible par les processus actifs de flux ionique. Voilà. Donc, la tension de la membrane, c'est en ordre de grandeur, 100 piconewton par micron. La tension du cortex, c'est un peu plus grand. D'accord ? Et la valeur de la tension qui en fait induit une rupture de la membrane, ici je l'exprime en, je disais tout à l'heure, 10 newtons par mètre. Non, pardon, je ne sais plus. En tout cas, c'est 10 000 piconewtons par micron, ça correspond à l'ordre de grandeur que je vous avais donné tout à l'heure. D'accord ? 10 puissance moins 2, voilà. C'est le même ordre. Donc, c'est la valeur supérieure de cette distribution de tension de membrane. Donc, voilà. Le point important, c'est que le cortex d'actomyosine, tout seul, il serait incapable de maintenir la cellule dans son état structuré. Et alors, on le voit, on peut le faire disparaître et la cellule est toujours en forme. Donc, c'est vraiment la différence de pression osmotique qui est activement régulée, qui maintient la cellule dans son état et non pas le cortex d'actomyosine. Alors, dans ce contexte-là, chez les plantes, on peut voir deux états différents. Le premier, c'est des changements réversibles de volume. Alors, maintenant, j'exprime la différence de potentiel chimique de l'eau entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, qui correspond à la différence de pression, à la pression hydrostatique moins la différence de pression osmotique. Si le delta psi est supérieur à zéro, d'accord, on va avoir un flux d'eau. Et il y a une façon donc, d'induire un changement réversible qui est d'augmenter la pression osmotique intracellulaire par un flux d'osmolite, un flux ionique, qui va induire un flux d'eau. À ce moment-là, on va avoir une augmentation du volume jusqu'à l'état stationnaire où delta psi égale zéro. Et un exemple typique de ça, alors c'est réversible parce qu'il suffit de changer après par des pompes ioniques la concentration pi, et on va avoir une réversion en fait, de ce processus. Et c'est ce qui se passe, par exemple, dans les stomates, qui sont les organes chez les plantes pour réguler le flux d'oxygène, la respiration. Et en fait, on a une variation du volume des cellules gardes qui induit un changement de forme et qui ouvre en fait le pore qu'on appelle l'estomac. Donc là, c'est un exemple physiologique de régulation réversible de volume par une modification de la pression osmotique intracellulaire. Mais il y a une autre modalité qui nous concerne plus, qui est un changement irréversible du volume, dans lequel on va annuler le potentiel chimique, la différence de potentiel chimique de l'eau, non pas en variant la pression osmotique, mais en variant la pression hydrostatique. Et pour cela, on va le réduire en modifiant les propriétés mécaniques de la paroi, et notamment qui est modélisée comme un milieu élastique dont le module d'élasticité peut être modifié par la restructuration de la paroi. C'est vrai chez les bactéries, c'est vrai chez les plantes, etc. Donc là, on a effectivement une relaxation de la paroi, flux d'eau, parce que la pression baisse, la pression hydrostatique, et à ce moment-là, une augmentation du volume, et le processus est irréversible parce qu'en fait, il vient d'une modification de la paroi. Ayant ça en tête, maintenant voyons maintenant le couplage entre ce qui était flux osmotique et puis les éléments mécaniques. Donc on voit en haut la loi que l'on a vue, hein, qui régule le flux d'eau en fonction de la différence de pression osmotique et de la pression hydrostatique. Et maintenant on a cette formulation que l'on va voir pas à pas, qui est en fait l'équilibre des forces dans le système, dans lequel on a la différence de pression et toute une série de contraintes qui sont en fait des propriétés intrinsèques de la cellule. Voyons-les pas à pas. Donc, prenons le cas minimal, qui n'est pas une vraie cellule, où en fait on a simplement la différence de pression en intracellulaire et extracellulaire. À l'équilibre, on a l'équilibre des deux pressions. Une vraie cellule, néanmoins, dans le cadre d'une plante, a une paroi, et donc on doit, pour exprimer l'équilibre des forces, exprimer en fait la contrainte liée à l'existence d'une paroi cellulaire, dans laquelle, donc la nouvelle formulation pour l'équilibre des forces. Et dans une cellule animale, on va non pas considérer la paroi, mais les contraintes liées au cortex cellulaire, et puis quelque chose qui est plutôt dans le bulk, dans l'intérieur de la cellule, qui est tout le cytosquelette ancré à la membrane, et qui est à l'origine d'une contrainte rentre en compte dans l'expression de l'équilibre des forces. Et puis maintenant, si la cellule n'est pas isolée, unicellulaire, mais dans un tissu, on a un dernier élément qui est en fait des contraintes venant du confinement de la cellule, qui correspond à l'existence d'autres cellules autour, et également d'une matrice extracellulaire qui en fait peut servir d'enveloppe qui limite les propriétés de la cellule. Et donc l'expression très générale chez une cellule animale va être de cette forme-là. Et donc on voit bien que l'on peut coupler ainsi les flux d'eau aux propriétés mécaniques, au sens où les propriétés de la cellule vont impacter directement sur les flux d'eau. Alors, pour être plus précis, ces contraintes mécaniques liées au cortex de la cellule dans une cellule animale, sigma renvoie une tension, et on peut distinguer, on l'avons vu en détail dans les cours que j'avais donnés il y a 3 ans, la tension de membrane et ce qui en fait est une tension corticale. Hein. Ici, sigma est une tension, on a ici le rayon de courbure, la courbure de la cellule, hein, représentée ici. Et ici, on a les forces en fait, de couplage entre la membrane et le cortex qui ont leur propre possibilité de régulation. Et donc finalement, la différence de pression ici prend l'agrégation de la tension de la membrane et la tension corticale. Et donc, mais dans une cellule, disons que la tension corticale joue un rôle absolument prépondérant dans la régulation des contraintes extérieures. Et c'est pour ça, ici, non pas exprimant maintenant les contraintes, c'est vraiment le cortex qui est pris en compte dans la cellule. Alors, chez une plante, comment régule-t-on ces contraintes extérieures? En fait, il y a des possibilités de régulation importantes. Donc, on peut ici identifier la cellulose comme l'élément central. En gros, on va dire que c'est l'équivalent de l'actine dans la cellule, hein, même si les cellules végétales ont évidemment de l'actine, qui est très importante. Ici, la cellulose donc, est un polymère. Qui est très importante, hein, c'est 35 à 50% de la biomasse, hein, des plantes, et l'ensemble des plantes dans la biosphère, c'est 80% de la biomasse sur l'ensemble de la planète. Donc la cellulose, c'est une molécule très importante. Et on a de l'hémicellulose, qui est en fait une espèce de cross-linker, qui est en proportion également très importante, située entre une cellule 1 et une cellule 2, tout ce milieu extracellulaire, comprenant la cellulose, les cross-linkers d'hémicellulose, et puis un troisième élément, qui est une espèce de gel, qui a une élasticité très faible, un gel qui assouplit l'ensemble de cette paroi, mais qui est en fait aussi un crosslinker réversible et qui est représenté comme troisième élément ici. Ce qu'on appelle ici la lamelle middle lamella, cette structure ici, c'est en gros ce qui correspond à l'adhésion intercellulaire pour les cellules animales. Elle couple en fait ces parois entre cellules dans un processus véritablement d'adhésion. D'accord ? Alors, justement, pour réguler les propriétés mécaniques et faire ce qui est au cœur de la croissance d'une cellule végétale qui a une différence de pression osmotique importante, baisser la pression peut se faire par un remodelage des fibrilles de cellulose ou alors des cross-linkers en fait, qui sont associés à la cellulose. Et j'exprime ici au moins 2 modalités. La première, c'est pour la cellulose hémicellulose, on peut soit assouplir la fusion entre ces celluloses en utilisant des choses comme ces enzymes, expansines, hein, qui va assouplir ou casser en fait, des cross-linkings entre ces brins d'hémicellulose, ou alors fusionner au contraire l'hémicellulose par des activités enzymatiques, notamment avec ces enzymes avec un nom un peu barbare. Donc là, on a des modalités de restructuration des filaments de cellulose. Et puis l'autre élément extrêmement important, ce sont en fait les pectates, hein, la pectine, qui en fait est un gel souple qui a une caractéristique, c'est d'assouplir le wall, les parois, et en présence de calcium, en fait, de se rigidifier. Donc on voit ici une expérience où l'on voit en fait la longueur d'une cellule, hein, qui est en mesure de sa déformation. Au cours du temps, lorsque l'on ajoute de la pectine, on va en fait augmenter plus rapidement la cellule, donc on va l'assouplir, son volume va croître. Alors que ici, quand on ajoute aussi un chélateur du calcium, d'accord, on va empêcher l'action de rigidification de ce crosslinker et à ce moment-là également, le volume va augmenter. Voilà. Donc on a ici un tour d'horizon très rapide des modalités cellulaires pour modifier en fait les propriétés mécaniques de la paroi et permettre ainsi d'abaisser la pression hydrostatique et d'augmentation du volume de la cellule, et donc sa croissance. Alors pour aller un tout petit peu plus loin dans les propriétés de la paroi, on peut définir la croissance et les contraintes sous une forme tensorielle, et le point important, c'est qu'il y a des éléments, il y a des possibilités dans la cellule offertes pour réguler les paramètres d'ordre, l'orientation de la cellulose. Et en fait, c'est extrêmement important parce qu'on peut à ce moment-là avoir des propriétés anisotropes dans lesquelles sigma YY est inférieur à sigma XX dans la représentation que j'en ai faite. Et à partir de ce moment-là, on va avoir donc des possibilités de croissance anisotrope qui viennent des propriétés anisotropes du mur. Et donc, il y a toutes des modalités de régulation de la polarité de la cellulose, d'accord, liées au flux d'auxine, qui permettent une régulation des contraintes mécaniques, en tout cas de leur anisotropie, qui a une incidence directe sur le tenseur de croissance qui devient anisotrope. Et donc c'est pour ça qu'on a des cellules qui peuvent être plutôt cuboïdales ou plutôt allongées, etc. Donc là, il y a toutes des modalités de morphogénèse. Chez les plantes, la morphogénèse, le changement de forme, se fait par modification des propriétés de la cellulose, je simplifie, qui induit des modalités de changement de volume de la cellule de croissance. Chez les plantes, quand on réfléchit à croissance, on a un modèle de morphogénèse. Contrairement aux animaux, où on le sait, ce n'est pas la croissance qui est principalement l'élément de morphogénèse, bien qu'elle joue un rôle important. Alors justement, chez les animaux, la différence de pression osmotique infime entre le milieu intracellulaire et extracellulaire permet au cortex d'actomyosine de jouer un rôle très important dans la morphogénèse. Quand bien même il n'empêche pas la cellule d'exploser, il permet, par des forces finalement modestes, d'accord, de modifier en fait la forme d'une cellule. Et on en voit deux manifestations. Pendant la cytokinèse, la division cellulaire, un anneau contractile d'actomyosine qui déforme et en fait va scinder le volume d'une cellule en deux. Mais les forces en jeu sont en fait très faibles par rapport aux choses que l'on voit par la différence de pression osmotique. Si elle n'était pas régulée, la cellule s'exploserait. Et puis, au contexte de la migration cellulaire, on a une anisotropie de forme cellulaire par une contractilité postérieure de la cellule et d'autres éléments de régulation du cytosquelette à ce qu'on appelle le front de la cellule. Donc voilà, c'est important de voir finalement le rôle très important du cortex d'actomyosine s'apprécie lorsque l'on voit en fait toutes ces propriétés physico-chimiques de la cellule animale. Et donc tout ce que j'ai pu dire ces dernières années sur le rôle de l'actomyosine dans la régulation de la forme de la cellule, hein, je renvoie à tous ces cours-là, se comprend mieux une fois qu'on a à l'esprit et des éléments chiffrés sur la pression osmotique, la différence de pression osmotique et le fait qu'elle est activement régulée. Alors, une manifestation très claire de ce que je viens de dire dans les conditions physiologiques, c'est ce qui se passe justement au cours de la division cellulaire. Là, je développe un article de l'équipe de Tony Hyman il y a quelques années qui montrait que, alors, pendant la division cellulaire, on sait que les cellules s'arrondissent, et en utilisant un cantilever qui mesure en fait la force appliquée par la cellule lorsqu'elle s'arrondit, les auteurs montrent à la fois l'augmentation de la force au cours de l'entrée en mitose, ici en métaphase, et puis la pression d'arrondissement liée à l'arrondissement de la cellule. Donc on a une mesure, les deux mesures, la force et la pression exercée. Et les auteurs montrent que quand on dépolymérise l'actine ou inactive le moteur myosine 2, donc en fait quand on perturbe le cortex d'actomyosine, eh bien cette force ou cette pression appliquée sur le cantilever en fait chute de façon dramatique. Et inversement, dans un milieu hypotonique, donc en variant la pression osmotique de la cellule, on a aussi un effet sur la pression mesurée. Donc, dans un milieu hypotonique, on va avoir une augmentation du volume et donc une augmentation de la pression exercée sur le cantilever. Inversement, dans un milieu hypertonique, où le volume va être réduit, on va avoir une baisse de la pression exercée. Donc ces expériences manifestent le fait qu'il y a à la fois une contribution de la pression osmotique et de la tension corticale dans la pression mesurée sur en fait, ce cantilever pendant le processus d'arrondissement de la cellule, pendant la mitose. Alors, parlons justement de la contribution de la pression osmotique. Si la cellule augmente son volume, c'est qu'il doit y avoir une régulation aussi de l'osmolarité dans la cellule. Et donc, pour cela, les auteurs inhibent, par exemple, les antiporteurs sodium-proton. Et on a à ce moment-là une baisse de la pression suite à l'application de cet inhibiteur. Alors, les ions H+, vont avoir aucune contribution à l'osmolarité parce qu'il y a tous des processus de régulation du pH dans la cellule, ce qui fait que ça va être tamponné. Mais en revanche, la concentration de NaCl, du sodium va être modifiée par cet inhibiteur et c'est ce qui est en jeu dans la baisse de la pression exercée sur le cantilever. Et maintenant, en utilisant une drogue assez brutale, l'aphatoxine du staphylocoque, on observe aussi une baisse de la pression très importante parce que c'est un inhibiteur qui induit en fait une augmentation de la perméabilité membranaire aux tous les ions cations monovalents. Et donc, en synthèse, on voit que donc, l'augmentation physiologique du volume de la cellule pendant l'entrée en mitose est liée à une régulation de l'osmolarité dont l'origine n'est pas encore déterminée, mais on peut imaginer qu'il y a par exemple certains canaux ioniques qui seraient exprimés dans cette phase d'entrée en mitose qui seraient importantes pour l'augmentation de l'osmolarité. Et par ailleurs, l'action du cytosquelette d'actomyosine qui joue aussi un rôle important, comme le révélaient les expériences. Donc là, on a une bonne manifestation en fait, de la régulation du flux osmotique et de la mécanique cellulaire comme jouant un rôle important pendant le processus de division cellulaire. Or, cet arrondissement de la cellule en fait, peut s'expliquer par la nécessité d'apporter un espace suffisant pour que le fuseau mitotique se mette en place, permettant une ségrégation des chromosomes plus sûre. Alors, le point là où je voudrais en venir, c'est que la cellule peut rapidement répondre à une variation de l'environnement, mais en fait, elle va s'adapter. Et c'est cette réponse adaptative de la cellule qui est extrêmement importante parce qu'elle permet elle manifeste une capacité d'homéostasie de la cellule. C'est-à-dire que le volume va augmenter dans une condition hypotonique, mais dans une échelle de temps de quelques 15-20 minutes, elle va retourner à son volume de référence. Et donc, comment est-ce que c'est régulé ? Par des processus actifs de pompage ionique ATP dépendant, qui vont restaurer en fait la différence de pression osmotique à l'équilibre et qui va donc restaurer le volume. En plus, des éléments d'endocytose de membrane, il y avait une mise à disposition d'un réservoir de membrane qui est à la fois à la surface mais également intracellulaire et celui-là peut être réajusté dans les conditions de variation de pression. On peut considérer dans l'endocytose tout l'arsenal complexe de l'endocytose, cavéoline dépendante, calatrine dépendante, etc., etc. Mais donc il y a des processus actifs d'adaptation de la cellule. Alors, parlant justement de régulation adaptative de la cellule, je mentionne deux grandes modalités de régulation. En fait, les propriétés à la fois mécaniques et, on va le voir, ioniques de la cellule sont détectées par la cellule pour induire une restauration. Alors, il y a les canaux ioniques qui sont, qu'on appelle mechanically gated, c'est-à-dire qui sont activés par une tension. Alors, il y a toute une série d'études qui ont été faites. Là où c'est le mieux étudié, c'est sans doute chez la bactérie où, en fait, Ces canaux MSCS, MSCL sont des canaux en fait activés par la tension. Les modèles en jeu dans ce type d'activation seront soit en fait une variation de la courbure de la membrane qui, lorsque la cellule est en tension, en fait, serait modifiée, qui pourrait ouvrir le canal ionique, et puis des changements d'épaisseur de la membrane liés à l'interface entre un milieu hydrophobe et hydrophile, et lorsque la cellule est en tension, en fait, qui pourrait être modifiée et qui serait détectée par le canal ionique. Donc là, il y a des calculs qui ont été faits par ces auteurs-là qui montrent en fait, la faisabilité, en tout cas, de ce modèle de canaux mécanosensibles qui seraient impliqués dans la détection du changement de volume qui induirait donc une augmentation de la tension de la membrane. Voilà. Maintenant, comme on l'a vu, chez les plantes, il y a la membrane et la paroi, donc manque aussi dans ça, pour avoir une compréhension exacte, comment la paroi également entre en jeu pour que la membrane n'est évidemment pas seul à sentir la tension. Les propriétés de la paroi absorbent principalement en fait, la tension dans la cellule. Alors, une autre classe de réponses sont des canaux ioniques qui sont activés par la baisse de la force ionique. On a en fait un mécanisme connu dans les cellules de mammifères qui est en fait une baisse, l'augmentation du volume de la cellule dans un milieu hypotonique va induire en fait un cotransport, un efflux transport vers le milieu extracellulaire d'anions, chlore et de cation, potassium, en dehors de la cellule. Et il y a des canaux ioniques impliqués dans ce processus, et cette étude en particulier identifie LRCC8 comme un composant de ce complexe impliqué dans l'ajustement régulé du volume de la cellule dans des conditions hypotoniques. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs, par un système artificiel in vitro, démontrent que ce n'est pas l'élément mécanique lié à l'inflation de la cellule qui est en jeu, mais quelque chose qui est une baisse spécifique de la force ionique dans le milieu extracellulaire liée à sa dilution, liée à l'augmentation du volume. Donc la cellule, ces canaux détectent la baisse de force ionique et répondent, d'une façon qui n'est pas du tout comprise, en tout cas au niveau moléculaire, par un flux d'ions en dehors de la cellule pour induire une variation en fait, du flux d'eau et donc une restauration adaptative du volume de la cellule. Donc, je vous renvoie à cette étude qui montre en tout cas une classe de phénomènes qui peut être beaucoup plus importante que connue jusqu'à présent. Mais retenons en gros l'élément mécanique dans l'activation de transport ionique et les modifications spécifiques de la charge ionique liées à l'augmentation du volume, à la dilution des osmolites. Alors, en fin de division cellulaire, il y a justement, en parlant en fait de dilution, les auteurs de ce travail, du laboratoire de Mathieu Piel, ont montré, alors en mettant en place un dispositif pour mesurer de façon vraiment précise le volume cellulaire par exclusion de fluorescence dans un milieu de culture, on a une cellule dans un environnement qui est fluorescent, et donc l'exclusion de fluorescence mesurée en intégrant sur plusieurs plans confocaux la fluorescence, on peut arriver à une expression du volume qui est en fait très précise. Et en faisant ça, les auteurs montrent au cours du cycle cellulaire les petites fluctuations et en même temps que l'augmentation graduelle du volume de la cellule. Et tout en fin de mitose, on voit en fait une espèce de overshoot, une augmentation rapide et sa restauration adaptative du volume de la cellule, alors que la synthèse protéique n'évolue pas. Donc en fait, si on a ici le volume de la cellule et l'augmentation de la masse sèche de la cellule, on voit en fait une baisse de la densité de la cellule, une espèce de dilution du milieu cellulaire en toute fin de mitose. Donc quelque chose qui se passe après ce que j'ai décrit dans l'article de Tony Heimann. Donc je ne crois pas que les auteurs aient encore identifié les éléments réguleurs, qu'est-ce qui est en fait impliqué dans cette régulation de la densité terminale, ni quelle est la fonction de ce processus en fin de mitose. Mais en tout cas, voilà une manifestation en tout cas physiologique, une régulation de la densité de la cellule par un découplage entre flux osmotique lié en fait à l'osmolarité et synthèse protéique. Même si, comme on le va voir, pour le reste de la division cellulaire, il y a en fait une synchronie très, très bonne entre la synthèse protéique et le volume cellulaire. Voilà. Donc c'est plutôt une exception à une règle que nous allons décrire maintenant. Alors, ayant vu maintenant flux osmotique et les éléments de mécanique cellulaire qui sont intimement liés et leur codépendance, chez les plantes, bactéries, levures, etc., et chez les animaux, en voyant bien les différences, maintenant, il est temps de passer rapidement à l'élément central de la cellule, c'est que ce n'est pas que de l'eau, c'est aussi 30% de matière sèche et principalement des protéines. Alors, justement, de façon numérique, 30% du volume de la cellule, de la masse de la cellule et de la matière sèche. Et en fait, ce sont essentiellement des protéines, plus que des lipides et des nucléotides. Chez la levure, c'est à peu près la moitié de la matière sèche qui sont des protéines, et à peu près 50% chez les eucaryotes. Et ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, la densité de protéines dans une cellule est extrêmement régulée. Elle est en fait extrêmement stabilisée, plus encore que son volume. Et donc, si l'on pense à l'augmentation du volume de la cellule pendant la division cellulaire, il doit y avoir un mécanisme d'ajustement de la synthèse protéique et du volume d'eau, de telle sorte que les deux soient corrégulés. Or, comme les protéines ne contribuent pas à la pression osmotique classique exprimées par la loi de Ventov en raison de leur faible concentration par rapport aux ions. On verra que ce n'est pas un processus si simple. Alors, chez les bactéries, la contribution aussi principale parmi les protéines, c'est quand même les ribosomes. C'est à peu près 15 à 25% de la masse cellulaire. Il y a 20 000 ribosomes dans une cellule d'un micron cube. C'est donc très important. On voit ici des diagrammes qui montrent donc le poids des protéines dans ces cellules et la part parmi, dans le protéome des ribosomes. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Alors, il y a des études très anciennes, hein, je remonte aux années 60, qui montrent que, comme on s'y attendrait, mais c'est bien de le mesurer, que pendant la phase de croissance de la cellule qui comprend la phase G1, la phase de synthèse, phase S de synthèse de l'ADN, duplication de l'ADN, et la phase G2, donc G1, G2, on a donc la croissance de la cellule avec un doublement de la quantité d'ARN et un doublement de la masse sèche, c'est-à-dire principalement des protéines. Et donc, elle se produit en phase G1, en phase S et en phase G2, de façon continue au cours de la cellule. Alors ça, c'est sur les populations de cellules. Alors, on avait vu l'an dernier l'impact important de facteurs de croissance dans la croissance de l'organisme. Eh bien, de façon attendue, cela a un impact sur la croissance de la cellule. Cette voie, en fait, très générale, hein, qui culmine dans l'activation de TOR, induit la synthèse des lipides, la synthèse protéique et la synthèse même de polymérase, etc. Donc, il y a une inhibition de processus autophagiques, augmentation de la synthèse protéique et des lipides, etc. Et lorsqu'on active cette voie par rapport, par exemple, avec une forme activée de l'oncogène RAS, RAS-V12, eh bien, une augmentation du volume cellulaire. Alors, dans ce profil, ça a l'air modeste, hein, c'est une augmentation détectable du volume de la cellule. Et lorsque l'on induit ici des clones activant MYC, qui est ce facteur ici en aval, qui est aussi un gène suppresseur de tumeur, on voit une augmentation du volume de cellules en regardant ici l'histogramme en vert par rapport à l'histogramme en rouge dans les conditions contrôle. Donc on peut forcer en fait la croissance cellulaire dans des conditions artificielles d'activation de cette voie, soit par l'oncogène RAS, soit par MYC. Voilà deux exemples parmi d'autres qui montrent en fait l'impact de ces facteurs environnementaux dans la croissance cellulaire et qui joue en fait sur la synthèse protéique. Tous les facteurs anaboliques, ce qui fait de la croissance, et notamment des choses impliquées dans le cancer, jouent en fait sur la croissance protéique. Le volume suit, en un sens. Alors justement, je parlais d'homéostasie, de la densité de protéines. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert comme très important parce que très finement régulé dans la cellule. Quelle est l'importance déjà de la densité de protéines, pourrait-on dire ? D'un côté, il doit y avoir une densité suffisante pour que le crowding moléculaire permette les interactions, les facilite. Et on sait en fait que, contrairement à l'usage de la loi de Ventov pour parler de pression osmotique, en fait, le milieu intracellulaire est extrêmement dense, dans lequel les forces entropiques d'exclusion de volume jouent un rôle prépondérant. On leur voit leurs manifestations, par exemple, entre autres, dans le processus de séparation de phases liquide-liquide qui sont très à la mode ces temps-ci. Mais dans un autre temps, l'augmentation du crowding cellulaire peut en fait avoir un impact négatif sur la signalisation parce qu'elle limiterait la diffusion. La diffusion dans une cellule, la diffusion effective dans la cellule va être, comme on va le voir, en fait, finement régulée par la densité. Donc on est en fait à la densité de la cellule est proche de ce qu'on appelle la transition colloïdale où en fait le système peut passer d'un état en gros liquide à un état qui ne sera pas exactement de cette nature-là avec une diffusion extrêmement réduite. Donc la cellule en fait, régule sa densité et le fait à un endroit qui est presque dangereux. Et on va voir en fait des cas où en fait cette densité est modifiée et l'impact physiologique que ça peut avoir. Donc, ceci pour exprimer le fait qu'il doit y avoir, qui dit régulation de la densité, dit régulation de la quantité de protéines par rapport au volume. Et donc, tout ce qui concerne pression osmotique et mécanique doit être lié, couplé, co-régulé avec la synthèse protéique. Donc, on peut les traiter comme deux phénomènes parallèles. Or, la physiologie de la cellule montre qu'ils sont couplés d'une façon ou d'une autre. Alors, ce travail très beau de Morgane Delarue, l'un de nos grands spécialistes français de la croissance cellulaire, montre que dans une cellule, on peut modifier, par l'activation de la voie TOR, justement cette densité de ribosomes et impacter la diffusion de la cellule. Alors, il a mis au point un système génétiquement encodé de particules, hein, représenté ici en orange, et qui permettent de mesurer de façon très fine la diffusion effective dans la cellule, dans des conditions normales et des conditions où il inhibe la voie TOR par cet inhibiteur rapamycine, ou alors en utilisant des mutations qui affectent la voie TOR. Et on voit ici, à droite, la réduction de quantité de ribosomes dans ces cellules-là, Et en microscopie électronique, on voit de fait une réduction de la densité de ribosomes. Alors, grâce à cette méthode de nanoparticules génétiquement encodées, fluorescentes, il peut mesurer la diffusion effective dans ces différentes conditions et voir ici, par exemple, que quand on augmente la concentration de ribosomes dans toutes ces conditions expérimentales, il y a une baisse conjointe de la diffusion effective chez la levure comme dans les cellules mammifères en culture. Donc, quelque chose de général. Et donc, de façon synthétique, on peut voir ici que l'augmentation du crowding dans la cellule par la modification de la synthèse ribosomique, en jouant sur cette voie TOR, en fait, réduit la diffusion. Et la cellule se situe dans une zone très particulière, finement régulée, de densité de ribosomes et de densité de protéines, permettant son fonctionnement. Alors, une autre étude indique que, du reste, lorsque l'on fait un choc hypotonique qui va augmenter le volume cellulaire, on peut après lever ces conditions de... Alors en fait, ici, c'est au contraire, c'est un choc hypertonique, le cellule réduit son volume, et on peut relâcher la contrainte, donc le volume va augmenter, revenir à l'état de référence. Et à ce moment-là, les auteurs montrent la translocation nucléaire de toute une série de facteurs impliqués dans différents aspects de la signalisation cellulaire, peu importe les fonctions ici, mais on voit au moins 5 exemples différents de réactivation des fonctions cellulaires, qui montrait en fait que la cellule était perturbée dans la fonction de différentes voies de signalisation lorsque son volume était réduit et donc le crowding est augmenté, en suivant les travaux de Morgan de la Rue. Et donc, on peut aussi démontrer, en tout cas chez la levure, que cette modification de la densité du crowding dans la cellule a un impact physiologique, lequel peut être restauré, c'est réversible, dès lors que l'on lâche la contrainte osmotique sur la régulation du volume. Donc tout ça pour signifier qu'il y a donc des indications fortes que la modification de la densité intracellulaire a un impact physiologique, et donc c'est pour cela que la cellule le régule si finement. Alors un exemple pathologique, ou en tout cas anormal, où on peut forcer le découplage entre augmentation du volume cellulaire et synthèse protéique, c'est les cas où en fait on va donc diluer d'une certaine manière le contenu cellulaire et ceci induit des perturbations dans les cellules qui s'apparentent à ce que l'on observe dans les cellules dites en sénescence, c'est-à-dire qui vieillissent. Et donc ce travail, en tout cas, suggère un mécanisme hypothétique au cœur d'un des aspects de la sénescence qui est en fait une modification de la densité cellulaire par un découplage pathologique, on va dire, entre synthèse protéique et régulation du volume. Alors, voici ici le système. On utilise chez la levure un mutant de CDC28 qui régule le cycle cellulaire. Donc la cellule, en fait, ne va plus se diviser, mais néanmoins, elle va continuer à croître en raison de ce phénomène connu de dominance de la croissance par rapport à la division cellulaire. Et donc la cellule augmente son volume. Alors, comme contrôle, les auteurs utilisent des conditions, ils bloquent la traduction protéique dans ce mutant, de sorte que l'on a la même condition génétique, mais plus la croissance volumique, qui leur permettent de vérifier que les effets mesurés viennent de l'augmentation de volume, mais non pas de la condition génétiquement mutante. Et en fait, les auteurs montrent en particulier le fait qu'il y a deux phases dans cette croissance du volume. Une première dans laquelle le taux de croissance est proportionnel au volume de la cellule, donc on est donc dans une phase exponentielle de croissance du volume de la cellule. Puis on arrive à une espèce de plateau dans lequel le taux de croissance sature, on est donc dans une phase linéaire de croissance de la cellule. Donc première phase exponentielle jusqu'à 300 microns cubes ou femtolitres, et après une croissance linéaire. Alors normalement, et on reverra, la croissance de la cellule est en fait exponentielle. Alors le point qui est important, c'est qu'à cette transition autour de 300 femtolitres, transition entre croissance exponentielle et croissance linéaire, on voit en fait le découplage entre l'augmentation du volume qui continue et l'augmentation de la synthèse protéique en fait qui marque le pas, qui est réduite. On n'a plus de croissance exponentielle protéique, on a une croissance linéaire et donc on s'attend à une réduction de la densité de la cellule. Donc le volume, on voit ici l'augmentation du volume et ici une baisse graduelle de la densité de la cellule. Donc dans ces conditions où on bloque le cycle cellulaire, la cellule continue de croître mais elle le fait mal parce qu'elle découple son volume, qui croît de façon exponentielle pendant un certain temps, puis linéaire, et puis la synthèse protéique qui n'arrive pas à suivre. Alors, quelle est l'origine en fait de ce découplage entre synthèse protéique et augmentation du volume? Eh bien, justement, c'est une perte du scaling entre l'augmentation du volume et en fait des éléments de la machinerie de transcription et de traduction, synthèse protéique, dans la cellule. On voit ici sous-représentés dans ces cellules toute une série de régulateurs, les RN et polymérases, de la machinerie de traduction, donc ça c'est au niveau des ARN comme des protéines. En gros, on a moins de ribosomes, moins de polymérases, et donc on n'a plus une capacité traductionnelle et transcriptionnelle suffisante face à l'augmentation du volume. On a une perte de ce scaling. Alors, il se trouve que ce qui est en jeu ici, c'est en fait le rapport entre le cytoplasme, le volume du cytoplasme, et la quantité d'ADN. Parce qu'une cellule a toujours la même quantité d'ADN, si ce n'est qu'elle en double sa quantité pendant la réplication, mais après, elle ne peut pas changer la quantité d'ADN. Par contre, son volume va continuer à croître. Et donc, il y a une espèce de zone où, en fait, la quantité d'ADN devient limitante. Et ça, c'est démontré par ces expériences où ils comparent des organismes haploïdes, donc N, et diploïdes, 2N. Ici, il regarde en particulier la réponse à, dans deux cas, en fait, qui est la réponse au galactose, hein, qui va induire l'expression de GAL1, et puis l'exposition à une hormone, hein, le facteur alpha. Et en fait, dans les conditions de croissance, quand on bloque la division cellulaire, la croissance continue, on a une augmentation de cette. On a une croissance, on a l'activation de ces différents facteurs, mais lorsque on est maintenu dans une croissance qui dilue la cellule, en fait, on perd en fait l'activation de ces voies. D'accord ? Donc la dilution de la cellule diminue l'activation de ces deux voies de signalisation. D'accord ? Et maintenant, il regarde, dans les conditions haploïdes et les conditions diploïdes, le volume cellulaire dans lequel cette perte d'activité se produit. Et en fait, on observe que pour des cellules diploïdes, le volume est deux fois plus grand dans les conditions où en fait, cette perte d'activité se produit. Donc vous voyez, l'élément critique n'est pas le volume absolu, mais le volume relatif à la quantité d'ADN. Et c'est ce que montre cette expérience. Donc l'élément central, la conclusion des auteurs, c'est que ce n'est pas le volume dans l'absolu qui compte, mais le découplage entre quantité d'ADN et volume cellulaire. Et donc c'est le rapport entre les deux qui est un élément déterminant. Alors justement, à propos de ce rapport, souvenez-vous, l'an dernier, dans le cours sur la croissance, j'avais souligné par un petit calcul pourquoi en fait ce rapport est important. En fait, ce qui est limitant, c'est la capacité transcriptionnelle de la cellule. Or, les ribosomes, en fait, la quantité de ribosomes, en fait, si on a une densité normale, est proportionnelle au volume. Mais un ribosome est une structure qui est à la fois faite de protéines et d'ARN ribosomiques. Ces ARN, RNA, en fait, doivent être transcrits. D'accord ? Et donc, autant à partir d'un ARN messager, on peut former plusieurs protéines. Pour un ribosome, il va falloir une copie de chacun des ARN ribosomaux, et donc la seule phase de synthèse correspondante, c'est la transcription. Or, la transcription est elle-même contrainte par des propriétés physico-chimiques. L'ordre de grandeur, c'est qu'on produit un nouveau transcrit toutes les 2 secondes de façon maximale, avec une polymérase tous les 60 nucléotides et un taux d'élongation de 30 nucléotides par seconde. On voit qu'on peut donc produire au maximum un transcrit toutes les secondes. Or, les ARN ribosomaux sont en ordre de grandeur 1 million d'ARN ribosomaux dans la cellule. Donc doubler la quantité d'ARN ribosomaux pendant la synthèse protéique, pendant la croissance cellulaire, en fait, prend un certain temps pour un génome haploïde, qui est de l'ordre de plusieurs heures. Donc si vous voulez augmenter davantage le volume de la cellulaire, notamment dans ces conditions pathologiques où on bloque le cycle cellulaire, eh bien, il y a un moment, en fait, on va être dans les conditions limitantes pour la synthèse d'ARN ribosomaux. Et donc, la quantité de ribosomes va être insuffisante, on ne va plus les assembler. Il va y avoir un découplage entre capacité traductionnelle et volume, et c'est exactement ce qui était vu tout à l'heure. Alors, les stratégies de contournement par la cellule, c'est justement d'amplifier les ARN ribosomaux pour faire comme s'il y avait plusieurs génomes dans la cellule. Donc, il y a toute une série de stratégies que j'avais développées l'an dernier, qui sont des tandem arrays ou autres structures, en fait, qui en fait, multiplient la quantité de génome ribosomal tout en restant diploïde, par exemple. Et c'est ce qui permet donc de rendre moins limitante le rapport cytoplasmique, la quantité d'ADN par rapport au cytoplasme, dans des conditions normales de doublement du volume. Mais lorsque l'on va vouloir croître le volume de façon plus importante, et nous avons vu la semaine dernière toute une série de cellules dans lesquelles ça se produit, à ce moment-là, la seule stratégie de contournement va être la polyploïdie, d'augmenter de facto la quantité d'ADN pour pouvoir maintenir un rapport cytoplasme sur ADN suffisant et donc alimenter une croissance plus étendue. Donc les cellules ciliées sont toutes polyploïdes, et même chez les mammifères, nombre de cellules en fait sont polyploïdes, évidemment le muscle, mais également toute une série de cellules. Alors, ces éléments nous ramènent donc aux aspects énergétiques de la synthèse protéique. En gros, dans le budget de la cellule, on avait vu tout à l'heure que c'est essentiellement la croissance qui est impliquée plus que la maintenance. Et bien, plus précisément, les auteurs ici calculent que c'est la synthèse protéique qui rend compte de l'essentiel du budget énergétique d'une cellule. On a ici une distribution en quantité d'ATP ou en fraction de l'énergie totale. Donc on a en noir le budget énergétique total de la cellule, et c'est quasiment superposé à en bleu, ce qui correspond en fait à la traduction protéique. Voilà les études chez Escherichia coli, la levure, C. elegans, et une plante, Arabidopsis thaliana. Donc dans quatre organismes différents, on montre que c'est la synthèse protéique qui correspond au budget principal de la cellule. Alors ici, vous voyez, dans ce contexte où l'on double la quantité d'ADN et de protéines, que le paramètre qui est le plus invariant, c'est effectivement la densité de la cellule. Dans ces différents types cellulaires, en culture, au cours de la croissance cellulaire, donc au cours de la phase de synthèse de protéines, d'augmentation du volume, tout exponentiel, la densité, en fait, ne change pas. Elle est autour de cette valeur extrêmement centrale. Alors ça, ce sont des études anciennes, mais il y a des études beaucoup plus récentes, que j'aurai l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, avec des mesures extrêmement précises, de l'ordre de 0,01%, qui montrent qu'effectivement la densité est le paramètre le plus régulé dans la cellule, plus que le volume même. Alors je finis par une étude que j'ai trouvée très intéressante, une étude théorique, qui en fait répond typiquement à cette question de savoir comment on associe, on couple la croissance exponentielle du volume, mesurée factuellement, et la croissance exponentielle de la synthèse protéique. Et quel modèle faut-il apporter pour expliquer ce couplage entre deux croissances exponentielles? Alors le premier, c'est qu'on peut facilement raisonner que si jamais le couplage entre l'ARN et le volume indique que on peut rejeter l'hypothèse en fait d'un taux de croissance qui est fixe, qui est constant. Parce que la caractéristique d'une croissance exponentielle, c'est que le taux de croissance soit proportionnel à la quantité de la protéine, et donc on peut exclure, ou d'ARN si on parle des ARN messagers. Donc on peut exclure déjà un modèle dans lequel le taux de croissance serait en fait limité par la quantité d'ADN, ou en tout cas la quantité de ce qui s'appelle ici le gene copy number, on va y revenir, ou la quantité d'ARN messager, dans lequel on aurait un taux de croissance constant. On peut rejeter ce modèle. En revanche, si on a donc une croissance exponentielle des protéines, une croissance exponentielle des ARN messagers et une croissance exponentielle du volume, il faudrait qu'il y ait donc un ajustement fin en fait, des différents taux de croissance. D'accord ? Et même si en moyenne ces taux de croissance sont les mêmes, d'une façon qui serait régulée par la cellule, une petite fluctuation, en fait, un écart entre ces deux, pourrait s'accumuler au cours du temps et induire une espèce de marche aléatoire de la croissance dans ces deux paramètres. Donc en fait, un mécanisme d'ajustement en moyenne des deux taux de croissance ne serait même pas suffisant pour expliquer en fait la convergence, le très proche ajustement de l'un par rapport à l'autre. Et donc il y a véritablement un problème sur lequel il n'y a pas encore de réponse expérimentale, et l'objet de cette étude, c'est d'apporter un modèle théorique qui potentiellement répond en fait à cette nécessité d'un nouveau modèle. Alors, ici, je veux m'arrêter sur ce paramètre G indice I, qui est en fait une espèce de raccourci pour parler de la régulation génétique. En fait, il s'agit de ce qu'ils appellent le nombre effectif de copies du gène. En gros, c'est ce qui renvoie à... par exemple, les polymérases vont se mettre sur un promoteur qui va réguler un gène. Et donc, le nombre effectif de gènes, de copies du gène, correspond en fait à la capacité de traduction, de transcription de ce gène. D'accord ? C'est pas simplement le nombre de gènes réels, c'est même le fait qu'ils soient très fortement régulés. D'accord ? Donc tous les aspects de régulation génétique vont faire qu'un gène qui n'est qu'en une seule copie peut être très fortement exprimé, et c'est ce qui va générer un GI important. D'accord ? Donc voyons GI comme une espèce d'agrégat de tout phénomène de régulation génétique qui culmine dans la production d'un ARN messager. Alors le modèle en fait repose sur c'est un modèle stochastique d'expression génétique qui considère que ce qui est limitant en fait ce sont les polymérases, les ARN polymérases et en quantité N et les ribosomes en quantité R. C'est eux qui sont limitants. Et en fait ce qui est maintenant modélisé, donc la production. Donc les gènes en fait, rentrent en compétition pour un pool limitant d'ARN polymérase, D'accord ? Et donc la quantité de messagers produits, par exemple ici, va être proportionnelle en fait à donc ce facteur, ce qu'ils appellent la fraction allouée à chaque gène, qui ne serait-ce que, qui n'est le ratio entre G indice I et la somme de tous les G sur l'ensemble des gènes. D'accord ? Et comme G indice I, c'est une mesure en fait de l'expression génétique de ce gène, d'accord ? On peut le voir comme la fraction d'ARN polymérase qui travaille sur ce gène par rapport à l'ensemble des gènes dans le génome. D'accord ? Donc on voit une espèce de terme sans dimension qui dit en fait la fraction des polymérases qui vont réguler l'expression, la production d'ARN messager d'un gène particulier par rapport aux autres. D'accord ? Il y a un aspect qui est en fait une bonne façon de prendre en compte les aspects de compétition pour un nombre limitant de polymérases. Et donc la quantité d'ARN messager dépend de ce facteur phi i, du nombre de polymérases et puis du taux de transcription de chaque polymérase K indice 0. On a le même type de description maintenant pour la traduction, dans lequel c'est le nombre de messagers d'un gène par rapport à l'ensemble des messagers, ce terme sans dimension, cette fraction, et le taux de traduction du ribosome, maintenant la fraction active de ribosome, F indice A, et R, le nombre de ribosomes. Donc F indice A, R, en fait, c'est le nombre de ribosomes actifs dans l'ensemble du génome. Voilà, donc le terme important, c'est phi indice I, en fait, qui est ce terme, en fait, la proportion en fait, d'un gène particulier qui est activé par la polymérase par rapport à l'ensemble des gènes. Alors, dans ce contexte-là, on va voir comment en fait, ces conditions limitantes impliquent en fait, des propriétés assez remarquables, notamment l'émergence d'une croissance exponentielle de tous les paramètres. Et donc, on part des conditions limitantes pour la transcription et la traduction, donc d'ARN polymérase et des ribosomes. À partir de ces lois qui dérivent de ce que j'ai décrit précédemment, on peut écrire l'évolution de la quantité moyenne de ribosomes dans la cellule comme fonction en fait, de la densité de ribosomes. En fait, le ribosome est lui-même autocatalytique dans sa propre synthèse, d'accord ? Et c'est cette propriété-là qui donne déjà une croissance exponentielle des ribosomes dans la cellule. Or, à partir de cette propriété, donc le taux de croissance des ribosomes est dépendant de la fraction de gènes ribosomaux dans l'ensemble du génome. Et c'est là qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que l'amplification des ARN ribosomaux en fait, conduit à augmenter phi R. En fait, c'est comme si on avait augmenté la quantité de gènes ribosomaux dans le génome, et c'est effectivement ce qui s'est passé. En tout cas, dans le cadre du modèle, ça revient à augmenter ce terme phi R. Et donc, on a un taux de croissance exponentielle, qui est une proportion entre l'évolution et la densité de ribosomes. Or, qui dit croissance exponentielle des ribosomes, qui est un fait établi par les expériences, on a eu aussi une croissance exponentielle des protéines, parce qu'en fait, d'après ce terme-là, on a une relation entre l'évolution de la densité de protéines, du nombre de protéines, et le nombre de ribosomes. Et donc, on a une croissance exponentielle des protéines. Or, comme les ARN polymérases sont aussi des protéines, on a une augmentation exponentielle du nombre de polymérases, et donc, on a une augmentation exponentielle des ARN messagers. Donc, finalement, des propriétés autocatalytiques de synthèse ribosomique, on a en cascade une propriété exponentielle de synthèse de tous les composants de la cellule. D'accord ? Et comme le volume est considéré comme proportionnel à la masse, d'accord ? C'est-à-dire à l'ensemble de la synthèse de toutes les protéines, qui sont les éléments essentiels de la masse de la cellule, le volume lui-même augmente de façon exponentielle. Alors, l'incidence de ça est aussi importante par rapport aux fluctuations. Parce que, et là je passe les étapes, l'élément important, imaginons par exemple que l'on augmente, on duplique le génome. Le terme phi indice i, qui est un terme relatif, ne change pas. Donc oui, on va augmenter la quantité d'un gène X ou Y, mais comment on va augmenter tous les autres gènes ? L'allocation des polymérases à l'ensemble des gènes ne va pas changer. Et donc les termes cinétiques d'augmentation des ribosomes, des protéines et des messagers ne vont pas changer. Et donc le système est à homéostasie. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc les auteurs décrit les lois dynamiques d'évolution de la concentration des molécules, des protéines et des messagers, identifie des points fixes qui sont en fait des points stables du système, et après, en utilisant des simulations numériques qui prennent en compte toutes les propriétés de ce modèle, il montre effectivement que, même dans un contexte de fluctuation de synthèse protéique, de synthèse des messagers, on a une augmentation attendue de la synthèse protéique et de la concentration, qui, elle, reste constante, quasi constante, moyennant néanmoins des fluctuations autour de cette valeur moyenne. Donc le modèle en fait, explique bien le couplage entre la synthèse exponentielle de tous les paramètres du système et il montre aussi comment le système en fait, atteint une homéostasie face aux fluctuations propres au système. Donc voilà, c'est un modèle théorique qui compatible avec un certain nombre de données expérimentales, notamment la croissance exponentielle des paramètres du système. Maintenant, il est évident qu'il va alimenter des analyses expérimentales pour être testé plus avant. Alors, on est dans ces conditions, en fait, dans ce modèle où on est limitant en ribosome et en ARN polymérase, on a une croissance exponentielle. Mais en fait, le modèle prédit aussi que si jamais ce paramètre qui est le rapport entre protéines et ADN est modifié, si on est en dessous de ce valeur seuil gamma 1, on est dans les conditions que je viens de décrire. Mais si on est dans une valeur un peu plus importante du rapport protéines sur ADN, à ce moment-là, on va être limitant d'abord en ADN, et donc on va avoir une synthèse non plus exponentielle mais linéaire des messagers, alors qu'on est encore en phase exponentielle de croissance des ribosomes, de la traduction. Et au-delà d'une valeur encore seuil gamma 2, on est linéaire pour les deux et la croissance est plus exponentielle. Alors ça correspond exactement, de fait, à ce qui a été décrit expérimentalement, où une cellule en fait plus diluée, où en fait on avait une augmentation du volume de la cellule par rapport à la synthèse protéique, on était limité en ADN. À ce moment-là, effectivement, souvenez-vous, la croissance n'était plus exponentielle, mais observée comme linéaire, avec un taux de croissance qui était constant. Donc au moins ce modèle est compatible avec ces données expérimentales que j'ai présentées auparavant. Voilà, et donc je finis avec vraiment un problème qui, à mon sens, n'est pas résolu dans la littérature que j'ai cherchée et qui est en fait le couplage entre l'échelle de temps finalement très courte d'ajustement des flux osmotiques d'ordre de quelques minutes et des réponses mécaniques de la cellule, et puis de l'autre, la synthèse protéique qui est sur une échelle de temps quand même plus longue et qui se manifeste au cours de la synthèse, au cours de la croissance cellulaire. Alors, ici, si vous voulez, je résume en disant qu'on voit bien, ça ce sont des données expérimentales du labo de Mathieu Piel qui montrent en fait, qu'il y a bien des petites fluctuations du volume en même temps qu'une évolution très, très claire de l'augmentation du volume cellulaire pendant la division cellulaire. Et donc, il y a bien un ajustement entre volume et synthèse protéique. Maintenant, le point central est que j'ai dit que la contribution des protéines à la pression osmotique de la cellule est négligeable, vu qu'elles sont en concentration 20 à 30 fois inférieure aux osmolites qui sont les ions. Et donc, on ne peut pas dire je double la quantité de protéines, donc je vais modifier l'osmolarité de la cellule et donc les flux osmotiques vont s'équilibrer naturellement. Non. Ou alors il faut abandonner la loi de Van't Hoff en disant qu'on n'est plus dans un système dilué, mais en fait la forte concentration des protéines aurait une contribution. Je viens dans la diapositive suivante. Donc, j'évoque ici des possibilités de feedback entre densité protéique et flux osmotique. La première est de dire que finalement, c'est un négatif feedback. Si on augmente la densité, par exemple, imaginons que transitoirement, pour des raisons liées à la fluctuation du système, il y a une synthèse protéique plus importante à la quantité d'eau dans la cellule. À ce moment-là, l'augmentation du crowding de la cellule pourrait inhiber par des phénomènes de diffusion, transcription, traduction, et donc il y aurait un réajustement de la synthèse protéique jusqu'à ce que la cellule en fait, retrouve une densité normale. Donc là, il y aurait une évolution, par cette rétroaction, un ajustement possible de la cellule. La deuxième, c'est de considérer qu'en fait, on est aussi dans la cellule est un environnement délimité par une membrane et une paroi chez les plantes, les bactéries, levures et champignons. Et donc, il faut aussi considérer l'augmentation de la paroi, de la surface par rapport au volume. Or, les composants de la paroi, les composants de la membrane sont synthétisés dans le cytoplasme. Donc, il y a un scaling assez naturel que l'on imagine entre les éléments de la paroi, de la surface et ce qu'il y a dans le cytoplasme, ce qui permettrait de ne jamais être dans les conditions limitantes de membrane. Mais, et en particulier, la quantité de pompes ioniques qui sont impliquées dans les ajustements de volume serait en fait directement une réponse à l'augmentation du volume, vu que c'est synthétisé par des ribosomes dont la densité est constante dans la cellule. Donc, il n'y a pas de réponse aboutie, mais on voit bien que ce soit une surface, les composants seraient naturellement, par les processus de régulation, naturellement ajustés au volume. Donc, on voit ici un moyen de réguler, que le système puisse s'équilibrer. En tout cas, j'ai mis trois petits points ici parce que, véritablement, je pense que c'est un sujet qui est très activement étudié. Il faut vous diriger vers le laboratoire de Mathieu Piel en France, qui, à ma connaissance, travaille beaucoup sur ces questions et qui seront révélées dans les années qui viennent. Et puis, je finis par ce qui est aussi vraiment une possibilité, après avoir parlé de pression osmotique dans les conditions en fait, du gaz parfait où en fait, on néglige les interactions entre les molécules et donc on considère que la concentration des ions. Bon, les protéines en fait, sont certes en concentration plus faible que les cellules, que les ions, mais elles sont des volumes bien plus importants et donc le volume occupé par les protéines dans une cellule est très important. On est dans une densité proche de la transition colloïdale et donc les physiciens ont prévu en fait un ajustement de la loi de Van 't Hoff qui prend en compte l'impact non linéaire de la concentration de molécules dans une pression qui est appelée une pression osmotique colloïdale ou pression oncotique. Elle vient en fait d'études très anciennes de Starling sur le plasma dans lequel il avait observé qu'il y avait un flux d'eau qui était lié à la concentration importante de protéines dans les capillaires et donc dans lesquels finalement ce qui est considéré ce n'est pas la pression osmotique classique mais une pression liée à la densité de protéines. Alors voilà une expression, une expression de cette loi de pression osmotique colloïdale dans laquelle on retrouve le terme loi de Van 't Hoff, d'accord, mais également en fait des coefficients qui prennent en compte des éléments non linéaires de la concentration des protéines. En gros, ici, l'idée, c'est que les forces entropiques qui créent des exclusions de volume et des agrégations de protéines, une très forte densité de protéines, ont un impact sur la mesure d'entropie qui est au cœur, en fait, de l'explication de l'origine des flux osmotiques d'eau. C'est-à-dire, en gros, il faudrait faire le calcul exact du gain d'entropie lié au flux d'eau d'un compartiment à l'autre quand on est dans des conditions où on a une densité de protéines importante. Or, ce calcul est assez compliqué parce qu'il prend en compte la densité de protéines, l'eau, des ions, etc. Mais en tout cas, cette pression oncotique ou pression osmotique colloïdale prend explicitement en compte la densité de protéines. Et donc, on y voit ici un moyen d'ajustement direct, beaucoup plus direct, de la densité de protéines, de la synthèse protéique et du volume de la cellule. Voilà, donc j'en ai fini. On a vu donc au cours du cycle cellulaire les mécanismes physico-chimiques qui régulent le volume, régulent la synthèse protéique et les éléments importants de couplage entre volume et synthèse protéique qui permet d'expliquer l'homéostasie des densités protéiques, sujet de recherche très actif et qui n'est pas, comme on l'a vu, vraiment expliqué. Maintenant, et comme introduction au cours suivant, on voit bien que ce qui maintenant régule le volume de la cellule ne peut pas être simplement ce que l'on a vu aujourd'hui, mais quelque chose en fait qui maintenant va réguler la division cellulaire. Si une cellule ne se divisait pas d'une façon qui dépendait d'une lecture de volume, eh bien, au cours des phases de croissance possibles de la cellule, on aurait une diversité de volume cellulaire. Et donc il y a une espèce de filtre temporel lié, on l'imagine, à une lecture du volume de la cellule. En gros, quand une cellule a doublé son volume, elle doit se diviser. Et si elle ne le faisait pas, on aurait dans la population une hétérogénéité de volume cellulaire. Donc on voit bien ici qu'il y a un élément de contrôle crucial et c'est le sujet du cours suivant. Donc voilà, je vous remercie et à très bientôt.